Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 14 octobre, qui ressemble à une petite journée d'été aujourd'hui. Hein?
Oui, c'est tout à fait.
On annonce quelque chose comme 24 degrés, même un humidex.
Ah oui! Ah, ben mon Dieu, Michel!
Oui, oui, exceptionnel. Vous savez, d'une année à l'autre, ça se répète. Hein? L'an passé, on a eu le même phénomène. La même
Est-ce que ça ne serait pas notre deuxième été des Indiens?
Non, c'est trop bref pour être
trop
été
bref,
des Indiens.
Hein? Malheureusement.
Il ne faut pas rêver à l'été des Indiens. On continue à vous parler de voyages, de nature, de science selon nos bonnes habitudes. Je suis Michel Audet, en compagnie de d'Anne Chiasson.
Oui, bonjour Michel, ça me fait plaisir.
Alors, Anne, oui. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Bien, je vais vous faire voyager
oui,
au Rajasthan.
Ce que j'aime beaucoup.
Oui, au Rajasthan en Inde, sujet de musique soufie. Je vais ensuite vous parler du plastique qui empoisonne nos océans, malheureusement, et du 100e anniversaire du Laboratoire médico-légal de Montréal avec les nouvelles, les récentes découvertes et les récentes approches dans ce domaine.
Bon.
Et vous, Michel?
Et de mon côté. Oui. De mon côté, j'amène faire un petit tour dans Charlevoix.
Oui.
Région magnifique, mais qu'on peut visiter aussi à cette période de l'année et aussi en hiver. Hein. C'est tout à fait magnifique.
C'est quatre saisons, hein, comme
toutes les époques,
au Québec.
Absolument. Et je vais vous parler de Pediculus humanus capitis.
Et pardon?
Oui, mais vous allez voir, c'est simple. Il s'agit, il s'agit du pou.
Ah,
le
d'accord.
Le pou, P-O-U. Hein.
Ah oui, pas oui.
Le pou, c'est ça. Donc, comment venir à bout du pou? Et ensuite, quelques conseils lorsqu'on part en voyage. Ça peut toujours nous être utile. Il y a des choses qu'on oublie parfois. Hein?
Mm-hmm. C'est toujours pratique.
Une petite pause musicale? Alors, un petit tour au cœur du cratère, parce que Charlevoix, c'est un cratère. La lumière dévoile un paysage au relief contrasté, témoignant d'un passé géologique pour le moins violent. J'ai l'impression de faire une publicité pour les Charlevoix, pour le, par exemple les Français qui viendraient nous voir, dans ces forêts des orignaux par dizaines, le long des deltas et des rives du Saint-Laurent, des oiseaux aquatiques par centaines. Alors voilà, un préambule. Alors, notre histoire, ici, commence il y a 365 millions d'années. Ben, on n'était pas là à ce moment-là. Hein? Et en ces temps anciens, on peut dire, il n'y avait aucun océan qui séparait le Québec de l'Europe et du nord de l'Asie. Et les premiers amphibiens ont commencé à émerger du milieu marin et ils ont amorcé leur quête vers la terre ferme. Et un jour, ces vertébrés terrestres à quatre pattes ont vu un bolide incandescent remplir le ciel. Puis, tout à coup, plus rien. Et c'était le colossal météorite de quelques 2 kilomètres de diamètre qui avait frappé de plein fouet la Terre à une vitesse d'environ 60 000 km/h. Et ça a renfoncé la croûte terrestre et le bouclier canadien sur un diamètre circulaire de 45 km qui a formé une dépression au centre de laquelle la matière a remonté à la surface pour former un pic qui s'appelle le mont des éboulements. C'est beau comme mot, les éboulements.
C'est très évocateur.
Oui, tout à fait. Ah, c'est difficile de distinguer au niveau du sol en raison de son étendue, mais aussi du fait que la moitié de cette structure-là se trouve sous les eaux du Saint-Laurent. Le cratère de Charlevoix est considérable. Hein? Des quelques 150 cratères d'impact qui sont répertoriés sur Terre, il arrive en 13e position. Quant à son diamètre, l'autre grand cratère en sol québécois qui figure dans le classement des 20 premiers de cette liste, c'est celui de Manicouagan, avec 100 kilomètres de diamètre.
Impressionnant.
Ah oui, c'est considérable. Alors, créant un vaste plateau central où coulent deux rivières d'importance, la rivière du Gouffre et la rivière Malbaie. Le météorite de Charlevoix a favorisé la multiplication de paysages et par le fait même d'habitats variés pour la faune et pour la flore. Les sapinières, ceux qui sont promenés là-bas, savent que les sapinières s'imposent dans le paysage de Charlevoix. Dans les basses terres du plateau, qui sont formés par le cratère, là où le climat est le plus doux, s'est installé ce qu'on appelle la forêt mélangée. C'est la sapinière à bouleaux jaunes, où domine le sapin baumier, le bouleau jaune, les épinettes noires et blanches, et dans une moindre mesure, l'érable rouge. Et dans certains des lieux les plus abrités, d'un microclimat particulier, se remarquent des érablières aussi, érablières sucrières. Mais curieux, on dit des érablières sucrières à bouleau jaune.
Ah.
C'est la première fois que j'entends parler d'une chose semblable.
Mm-hmm.
Dans l'arrière-pays plus montagneux, c'est la forêt boréale qui règne sans partage. Et encore plus haut se trouve la taïga. Et ça, c'est étonnant parce qu'on l'observe habituellement dans le nord. Ah, c'est bienvenu dans le domaine de l'épinette noire, du pin gris, du pin gris, oui, étonnant, mm-hmm. et des lichens terrestres.
Mais dites-moi, Michel, est-ce que, comme là, on parle beaucoup de la flore, est-ce
oui.
qu'il y a question de la faune aussi, des animaux qui...
Oui, dans Charlevoix, on trouve une bonne densité d'orignaux. À l'approche de l'hiver, les animaux gagnent des peuplements de conifères qui leur servent à la fois de protection... Et contre les vents pendant la saison froide, une alimentation abondante aussi. Et quand l'hiver est neigeux, le couvert dépasse 90 cm, qui est quand même assez considérable, l'orignal ne va pas quitter son ravage. On appelle ravage, c'est curieux, hein? C'est l'endroit où il demeure. On dit ça pour les orignaux, les cerfs aussi. Et parce qu'il économise son énergie tout en restant à l'affût de son principal prédateur.
Qui est?
Le loup gris.
Le loup, qui est beaucoup plus
oui.
petit quand même. Hein?
Oui, mais probablement qu'il s'attaque en meute,
exact.
J'imagine. Le grand cervidé s'éloigne rarement de plus de 100 mètres du couvert protecteur des résineux, de manière à pouvoir s'y cacher en cas de besoin. Bien sûr, son pelage sombre aide à sa dissimulation dans la végétation. Et dans cette saison, en avion ou en hélicoptère, il est facile de repérer l'orignal par l'observation des réseaux de pistes dans la neige. D'ailleurs, il y a une entreprise particulière qui est spécialisée dans ce coin-là, particulièrement à Saint-Paul, qui offre un service en hélicoptère pour pouvoir surveiller. Mais ils font très attention parce qu'ils doivent garder une certaine altitude pour ne pas les effaroucher. Et dans certaines forêts, bon, dans l'estuaire, ça mérite qu'on s'y enfonce. On peut parcourir un sentier bien aménagé, bien balisé aussi à ce moment-là.
Donc, très agréable pour les marcheurs, j'imagine.
Très agréable pour les marcheurs. Puis, magnifique paysage aussi, continuellement. On trouve aussi une variété d'oiseaux. Dans ce coin-là, Baie-Saint-Paul, la Malbaie. Et ce qu'on trouve particulièrement comme oiseau, c'est le garrot d'Islande.
Oh!
Que je
bien
ne
nommé.
Connais pas.
Moi non
et
plus.
Les goélands, bien sûr, qu'on trouve partout. Étonnamment, goélands arctiques.
Ah?
Qui devraient être plus au nord, en principe. Ben, des canards, des oiseaux de rivage, aussi beaucoup d'oiseaux de rivage, et quelques espèces de hiboux. Et sur la plage de Saint-Irénée, vous avez une halte migratoire pour les oiseaux aquatiques. Donc, à certaines périodes, il y a une très belle observation à faire à cet endroit-là.
Absolument.
Alors, c'était Michel Leboeuf qui nous parlait de Charlevoix, et c'était dans Nature sauvage, automne 2014.
Moi, de mon côté, ce matin, je vous emmène très, très loin de notre pseudo automne, non pas été des Indiens.
Été des Indiens, oui.
Voilà, donc je vous amène au Rajasthan, en Inde, avec un article qui s'appelle « Le fort de Nagore, palais romantique, caravansérail et hôtel de charme ». Oui, pour vous parler en particulier d'un festival annuel qui a lieu tous les mois de février, et qui s'appelle le World Sufi Spirit Festival.
Oh, les Soufis.
Les Soufis,
le
exactement.
Soufisme.
Le soufisme.
Et non pas sophisme.
Non, c'est différent.
Oui.
Donc, l'article est signé Franck Charton. C'est dans Grand Reportage, septembre 2014. Commence comme suit. La journée tirait à sa fin. La chape de plomb fondu qui nous avait taraudé toute la journée commençait à relâcher son étreinte. Après une journée de piste à manger du sel et de la poussière du Rajasthan, la citadelle que je nommerai un petit peu plus tard, qui s'appelle Ahichatragar.
Ah oui, ça c'est oui. bien ça.
Oui, il faut faire attention quand on prononce. Donc, cette citadelle offrait un délicieux répit, un oasis dans le désert. Arrivé donc dans la ville où se situe cette citadelle, la ville de Nagore, je sentais confusément que mon introduction soufie aurait lieu ces soirs de février sous les arcades d'une forteresse indienne délicieusement romantique, sise dans les plaines arides du Rajasthan central, à mi-chemin entre Jaipur et Jaisalmer. Pour situer un petit peu les auditeurs qui seraient peut-être déjà allés en Inde, c'est oui. plutôt dans la section nord-ouest de l'Inde, assez au nord. Donc, tout près, pas très loin du Cachemire.
Ah oui.
Et pas très loin du Pakistan non plus. Aujourd'hui, il y a un Maharaja dans cette région-là, le Maharaja de Jodhpur et son directeur artistique qui s'appelle Alain Weber, qui est ethnomusicologue, je vais en parler un petit peu plus loin, réussissent le tour de force de réunir chaque année, en février, quelques-uns des plus fascinants artistes soufis, musiciens rajasthanis, derviches et tziganes du monde à l'occasion du World Sufi Spirit Festival. Mais reprenons depuis le début. Au commencement, donc...
Était le verbe.
Était le... Il y a quand même peut-être pas 365 millions d'années comme dans votre article tantôt.
Oui, oui.
Était un palais des mille et une Rajasthanis surnommé Mehrangarh, la citadelle magnifique. Il est devenu aujourd'hui un fantastique conservatoire des arts et traditions culturelles Rajput. Au début des années 2000, donc on fait une petite histoire en raccourci quand même, donc au début des années 2000, l'actuel Maharaja, qui s'appelle Gaj Singh II, entreprit la restauration d'un autre de ses forts, celui de Nagore, dont on vient de parler un petit peu, et de le transformer en hôtel de charme. En 2008, le souverain, estimant que le site avait retrouvé assez de lustre, songea à y faire revivre sa tradition soufie. Et de fait, on évolue dans une parenthèse d'histoire entre caravansérail et harem. Son vrai nom, Ahichatragar, signifie... Ça, je vous le donne en mille, d'après vous.
J'ai aucune idée. J'ai beau temps pour prendre de chance.
Je vous taquinais un peu, Michel. Ça s'appelle, la définition, « cobra à capuchon ».
Oh!
Une métaphore qui signifie la volonté de se mettre à l'écart du monde. Et le lodge lui-même appartient au label qui désigne les hébergements indiens alliant luxe, histoire et caractère. Tantôt au soleil levant sous un arbre tordu, tantôt à l'heure bleue du soir sous un vaste porche aux arcades ciselées, ou encore la nuit dans une petite cour éclairée par des milliers de bougies, artistes et publics peuvent apprécier l'exceptionnelle proximité reliant les uns aux autres dans une atmosphère de sérénité joyeuse. Pendant 3 jours se succèdent artistes locaux et internationaux, chanteuses iraniennes aux jeux de tambours obsédants, insolites danseuses peintes de Mayotte, confréries de Zanzibar au cœur hiératique ensorcelant, derviches égyptiens de Tanoura ou rudes gitans du désert de Thar, les fabuleux troubadours Langa et Manganiyar, au fil d'une scénographie savamment orchestrée par Alain Weber, le directeur artistique depuis 2011. Cet ethnomusicologue, globe-trotter et expert S-musique du monde est devenu l'âme du World Sufi Spirit Festival. À travers le concept soufi, nous dit M. Weber, nous nous attachons à établir une programmation qui ne soit pas forcément liée à l'islam mystique, mais ouverte aussi aux musiques sacrées des autres spiritualités. Après Nagore, donc, il y a 2 endroits où se passe ce festival, donc à Nagore et ensuite à Jodhpur, qui, depuis 2012, donc, ça dure 3 jours, ce festival-là. Donc, Jodhpur, qui est le berceau familial du Maharaja à 130 km de là. Dans ce dédale de cours et de salles d'époques différentes, les concerts ont lieu dans des lieux ouverts ou très intimes, style salon de musique ou rempart surplombant la ville bleue. Se tient ce jour-là, sous les coupoles d'une petite cour d'honneur, un atelier de transmission orale de chants sacrés du Thar. Il s'agit de musique à la fois dévotionnelle, d'inspiration religieuse ou spirituelle, et savante, et encore jouée dans les cours princières. Du côté des instruments, bien, quantité d'instruments traditionnels participent au dépaysement sonore, et même nos oreilles vont être dépaysées sonorement, Michel, avec, on parle de kartal, de dholak, de damaru pour les percussions, ektara, kamanche et saranji pour les cordes, algoza, murali ou satara pour les instruments avant. Pouvez-vous me les répéter à l'envers, Michel? Alors, quelques maîtres portant beau, bacchante emphatique et yeux de braise fardés au col, Cornac, une escouade de jeunes garçons pleins d'ardeur à l'ouvrage. Il faut les voir déclamer passionnément sourates et vers poétiques, joignant le geste à la parole avec force moulinet du poignet, hochement de tête révérencieux et regard fiévreux, irrésistible de panache. Plus tard, dans la douceur d'un merveilleux jardin d'inspiration persane, ce sera au tour de d'autres poètes saltimbanques et musiciens tziganes. Donc, il y a beaucoup de monde qui se promène dans dans ce festival. Et on dit, je termine là-dessus, c'est bien la seule route que l'on puisse prendre en étant ivre. La route de la musique. Alors, c'était...
Le berceau des derviches, en passant, c'est en Turquie.
En Turquie, je crois.
En Turquie, je pense c'est la ville de Konya. Et l'instigateur, c'est Malvina. C'est très beau de voir des derviches tourneurs qui tournent avec une grande robe, une main dirigée vers le ciel et l'autre vers la terre. Espèce de mouvement magnifique.
Exact. C'était dans le grand reportage, septembre 2014. Donc, voilà. Bonne journée, tout le monde. C'était deux chanteuses, Nora Jones et Anusha Shankar, qui nous chantaient... J'ai oublié le titre, Michel. Ça finit par « You ».
Qui nous chantaient « Trace » ou « Traces of You ».«
Traces of You ». Voilà, donc ça nous faisait un lien très intéressant. Merci, Kamal, avec le Rajasthan dont on a parlé.
Il manquait seulement des derviches tourneurs en studio. On n'a pas osé aller jusque-là, quand même. Donc, je vous parle de Pediculus humanus capitis. C'est Marion Spé qui en parle dans Québec Science, octobre 2014. Ben, il est là depuis la nuit des temps. Hein. Et il semble que malgré les efforts des humains, ben, sa longue histoire n'est pas près de se terminer. Ils ont la taille d'une graine de sésame. Ils élisent domicile dans la chaleur, l'humidité de nos cuirs chevelus. Et ils provoquent le plus souvent ben, des démangeaisons désagréables et parfois insupportables. Mais les ruses qui ont été utilisées par les humains pour s'en débarrasser n'ont rien changé. Les poux sont toujours là, puis ils sont plus forts que jamais. Ils sont plus coriaces aussi. Et c'est ce que révèle une étude dirigée par un professeur de chimie et de toxicologie environnementale à l'Université du Massachusetts, qui rassemble les statistiques les plus récentes sur le sujet en Amérique du Nord. Donc, c'est objectif. C'est pas subjectif de dire oui, mais c'est vraiment objectif. La situation est sans équivoque. 97 % des poux prélevés sur 121 têtes canadiennes et 99 % de ceux recueillis sur des tas de têtes états-uniennes portaient un marqueur de résistance. Résistance à deux insecticides en vente libre couramment utilisés contre la... Ça paraît bien. La pédiculose du cuir chevelu. On dit à quelqu'un, de quoi tu souffres? De la pédiculose du cuir chevelu. Ah oui, t'as des poux, mon homme. Et ça, c'est depuis les années 1980. Et c'est le développement de la résistance. Voilà qui expliquerait pourquoi ces traitements sont devenus moins efficaces et parfois inefficaces. Au Québec, les premiers résultats d'une étude, encore non publiée et dirigée par un microbiologiste et médecin au conseil de l'Institut national de la santé publique du Québec, confirment les mêmes résultats qu'aux États-Unis. Le phénomène de résistance des poux était déjà connu. La nouveauté, c'est qu'il prend des proportions alarmantes depuis 1999. À l'époque, selon les travaux aux États-Unis, 84 % des poux étaient porteurs d'un marqueur de résistance. 15 ans plus tard, on parle d'une augmentation de 15 %, augmentation de 15 %. Et chercheurs d'incriminer l'utilisation massive et presque exclusive de produits à base de permétrine ou pyréthrine, c'est des produits qu'on trouve sur le marché. C'est probablement ce qui a donné une chance à la résistance de s'installer dans les populations de ravageurs comme les poux. Chez les poux répertoriés, on trouve une mutation. Je vous fais grâce des points techniques, des canaux sodiques et de l'ion sodium. C'est pas important, c'est secondaire, à part pour les chercheurs. En présence de la mutation, le site d'union de l'insecticide est altéré, désensibilisé, et les traitements perdent leur efficacité. Et toutefois, l'insensibilité des poux aux produits utilisés pour les éliminer n'est pas la seule cause de l'échec d'un traitement. Le spécialiste mentionne aussi l'usage inadéquat des produits, ainsi que la négligence ou l'ignorance des utilisateurs. Il n'est pas rare, en effet, que le mode d'emploi ne soit pas correctement suivi. Le temps d'application, par exemple, trop long, nombre insuffisant de traitements, mauvaise dilution du produit. Alors, même s'ils ne sont pas vecteurs de maladies, les poux restent un problème de santé publique, car leur présence entraîne l'absentéisme des écoliers, mobilise des infirmières, génère un coût social élevé. Évidemment, le nombre croissant de poux mutants ne fait qu'empirer le problème. On nous dit que l'objectif, c'est de maintenir à moins de 10 % la prévalence de la pédiculose dans les milieux scolaires. Les écoles et les garderies sont ciblées en priorité, puisque ce sont les enfants de 3 à 11 ans qui sont les plus susceptibles d'être infestés. En général, l'infirmière scolaire ayant contribué à l'élaboration du guide, y attrape des poux pendant les vacances, alors que la vigilance des adultes est en baisse. À la rentrée, bien, la promiscuité est l'élément clé qui permet aux poux de passer d'une tête à l'autre, de sorte que l'infestation peut généraliser.
Michel, j'ai tout à coup l'image qui me vient de une image un peu caricaturale où un pou sauterait d'une tête à l'autre.
Mais c'est pas le cas. Les poux ne sautent pas et un pou, ça ne vole pas. Il rampe tout simplement. Donc, ça va être au contact d'une chevelure à l'autre.
Vous savez, les
enfants ont tendance à
chamailler.
C'est ça, des choses semblables. Alors, pour atteindre leur objectif anti-pou, les auteurs du guide ont mis l'accent sur l'information auprès des parents, mais aussi sur la prévention et la formation des professionnels de la santé. On peut désormais délivrer des ordonnances collectives pour les personnes infestées par les poux, et ça, c'est une pharmacienne qui nous le dit. Et aussi, les auteurs du guide souhaitent également lutter contre la discrimination sociale. En insistant sur l'information, on oublie trop souvent que les poux s'attaquent aux riches comme aux pauvres et aux cheveux sales comme aux cheveux propres. Donc, il faut faire très attention à ça.
On ne peut pas accoler
ça à une classe de la société, ça n'a rien à voir. Donc, c'était une petite information sur les poux et c'était par Marion Spé dans Québec Science d'octobre 2014.
Une petite brève ce matin. Saviez-vous qu'on peut... c'est très révélateur la façon dont on dit bonjour aux gens. Hello.
Oui.
Un mot qui nous révèle. Ce mot suffit à votre interlocuteur pour qu'il vous juge comme une personne dominante, séduisante, digne de confiance ou non. Louis envoie immédiatement un message au cerveau quand il entend un mot comme celui-là pour la première fois. Le jugement l'accompagne de façon presque instantanée, signale Pascal Bélin, qui est professeur associé au département de psychologie de l'Université de Montréal et professeur à l'Université de Glasgow, en Écosse. Le chercheur a publié avec deux collègues les résultats d'une recherche menée auprès de 320 personnes qui devait classer les 64 énonciations du mot « hello » selon 10 traits de caractère. Paru dans la revue PLOS One, PLOS PLOS, l'étude démontre qu'on peut prédire les impressions personnelles suscitées par de courts énoncés. Cela pourrait servir à orienter les systèmes de voix artificielle, mais aussi, souligne le chercheur, à conseiller les personnalités publiques qui doivent faire bonne impression dès les premières secondes.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici rendus à un article qui s'appelle « Le plastique, ce danger qui empoisonne nos océans ». C'est tiré d'une magazine qui s'appelle Carto 25, septembre-octobre 2014. On commence à en entendre parler de plus en plus, mais voici les défaits un petit peu plus scientifiques, je dirais. Donc, connus depuis plusieurs années, les plaques ou continents de plastique présents dans les mers et océans constitués de milliards de débris de déchets, représente une menace difficile à percevoir, mais bien réelle, pour l'équilibre de la biodiversité et pour nous, les êtres humains. Sur les 260 millions de tonnes de plastique produites chaque année...
C'est énorme, hein?
C'est énorme à travers le monde. 2 % soit 6,4 millions, finissent en effet dans les eaux pour constituer 89 % du volume de pollution marine. Donc, 2 % de nos déchets produisent plus que les trois quarts des déchets qui sont dans l'océan.
Impressionnant.
Impressionnant. Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, avant les années 50 et la généralisation du plastique, les débris flottants issus de l'activité humaine étaient dégradés par des micro-organismes. Il ne s'agissait pas de plastique à ce moment-là, nécessairement. Or, le plastique, lui, ne se dégrade pas ou très lentement.
Combien de temps ça prend, le plastique, pour se
désintégrer? Imaginez, Michel, un tout simple sac de plastique d'épicerie,
oui.
20 ans.
20 ans?
20 ans et 450 ans pour une bouteille pour s'autodétruire.
Oh.
Quant aux continents de plastique, donc, certains atteignant une superficie de 6 fois la France. Il s'agit donc de gigantesques tourbillons océaniques appelés gyres, au nombre de 5. Donc, il y a 5 gyres, 5 continents.
Des agglomérations de plastique en pleine mer.
En pleine mer, exactement. Et elles sont situées, disons, dans l'océan Pacifique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Dans l'océan Pacifique aussi, pas tout près des côtes, mais dans le milieu, si on veut, entre l'Europe et l'Amérique. Donc, et il y en a également un, le cinquième, est à l'ouest de l'Australie. La plupart des déchets plastiques marins proviennent d'activités terrestres, soit directement depuis les villes côtières, soit par l'écoulement fluvial. Donc, on pense au fleuve Saint-Laurent qui se déverse dans l'océan Atlantique. Et ça, en quelques années, ça les a conduits en leur centre. Si l'on trouve en moyenne dans le monde 13 000 particules de plastique par kilomètre carré, dans le gyre du Pacifique Nord, de loin le plus grand, cette concentration est 23 fois plus élevée. Depuis les premières études réalisées dans les années 90 sur ce dernier, donc dans le Pacifique, où se seraient accumulés les 100 millions de tonnes de plastique, il a été démontré que chaque gyre, donc chaque tourbillon, abritait sa soupe de microparticules polluantes. Le danger du plastique, allons dans le concret, est avant tout lié à ses effets sur la biodiversité. Ces fragments sont facilement confondus par les animaux marins avec de la nourriture.
Ah oui.
Les tortues, par exemple, s'étouffent avec les sacs qu'elles prennent pour des méduses, tandis que les mammifères sont blessés ou mutilés ou pire encore meurent par des résidus de filets dans lesquels ils sont régulièrement pris au piège. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, UNEP, estime que près de 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères meurent chaque année en avalant du plastique. Il agit tel une éponge. Donc, le plastique agit tel une éponge, fixant les toxines des polluants organiques persistants ou le bisphénol A, des perturbateurs endocriniens, donc internes, réputés pour favoriser les risques de cancer. Ainsi, certains débris contiennent des doses de POP jusqu'à 1 million de fois supérieures à la normale. Assimilées au plancton dont elles ont la taille, ces microparticules sont désormais à la base de la chaîne alimentaire et, selon le principe de bioaccumulation, remontent jusqu'au sommet de celle-ci, c'est-à-dire nous, l'être humain.
Donc, ah, ben en oui, oui.
Alors, un autre danger existe également qui dérivant loin du lieu de leur entrée dans l'eau. Certains plastiques accueillent des micro-organismes étrangers au milieu dans lesquels ils circulent, entraînant notamment des risques de contamination pour les élevages qu'on appelle aquacoles, donc la culture, si on veut, mais dans l'eau, les élevages de poissons notamment. Face aux dangers qu'elles représentent, supprimer la pollution au plastique s'avère un atout majeur. Or, ce défi se révèle particulièrement complexe, d'abord par la taille des déchets qui échappent aux mailles des filets classiques, deuxièmement par leur répartition sur des millions de kilomètres carrés, à des profondeurs relativement importantes, et troisièmement, un autre problème, la menace que certaines solutions pourraient représenter pour la flore et la faune marine. Par contre, bonne nouvelle sur ce sujet, un jeune Néerlandais, Bojan Slat, qui veut se servir des courants marins pour piéger les plastiques, et les autres projets proposent de faire circuler des navires. Donc, deux bras flottants, 50 km, qui sont arrimés au fond marin, qui forment un barrage en forme d'entonnoir. Et tout ça va se trouver à ramasser les déchets de plastique là, dans sa structure.
Et ça doit être plus simple, lorsqu'ils sont agglomérés, de pouvoir réussir à les récupérer d'une certaine façon. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, je comprends bien.
Exactement. Ça leur prend 2 millions par année pour être capable de solutionner ce problème. Sur leur site Internet, qui s'appelle www.theoceancleanup.com, ils ont déjà ramassé un petit peu plus de 2 millions en ce moment. Donc, c'est pas sans espoir, mais quand même, il faut vraiment y voir et maintenant.
Ça prendrait un gigantesque aspirateur.
Ah, mon Dieu! Un aspirateur qui aspirerait juste le plastique.
Oui, c'est ça.
C'est
spécialisé,
à inventer. Donc, dans le Géocarto, non, c'est pas vrai, Carto 25, septembre-octobre 2014, c'était le plastique, ce danger qui empoisonne les océans. Et c'était signé T. Hurel. Thank you.
bon, on se laisse entraîner par la musique. Alors, quelques conseils avant de partir en voyage, que ce soit un long ou un court séjour. Bon, peut-être pas une fin de semaine, mais quand même. Et c'est paru dans la presse la presse du 11 octobre 2014. J'ai pas trouvé de signature. Alors, la première chose, les documents. Assurez-vous de posséder tous les documents qui sont requis au long de votre voyage. Vous savez que tous les Canadiens qui voyagent à l'étranger doivent posséder un passeport. Passeport valide, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est parfois la date de validité doit être supérieure de 6 mois à celle de la date de retour. Et j'ai vu des gens très mal pris en voyage. Parce qu'ils n'avaient pas respecté cette chose-là. Et on dit, fouille, ça peut être très long. Alors, vérifiez auprès de la compagnie qui vous a vendu le séjour si un visa est nécessaire pour votre destination. Et il faut parfois s'y prendre d'avance. Hein. Je viens de demander un visa pour le Brésil et ça a pris 5 semaines avec des démarches très difficiles. Donc, il faut s'assurer de ces choses-là. Alors, personne non plus n'est à l'abri d'une perte ou d'un vol. Donc, ces exemplaires peuvent être laissés à un proche. Faire des photocopies aussi. Et ne pas garder avec la même pièce. Gardez pas votre photocopie de passeport avec votre passeport. Alors, c'est des petites choses qu'on oublie. Et on peut numériser ces documents-là maintenant. Aussi, selon la destination choisie de pays visité, une vaccination spécifique peut vous être demandée. Ou encore une médication préventive peut vous être recommandée. Le mieux est donc de consulter et plusieurs semaines à l'avance, parce que idéalement 6 à 8 semaines, parce qu'une clinique de santé, vérifiez avec la clinique de santé voyage, parce que parfois le vaccin doit être répété avant de partir. Donc, assurez-vous que votre vaccination de base est à jour. Je pense particulièrement au tétanos. Qu'il faut renouveler à tous les 10 ans actuellement. Donc, si vous allez à l'étranger, une clinique santé-voyage, c'est très précieux. Et sachez que certains pays exigent un certificat de vaccination contre certaines maladies particulières. Je pense à la fièvre jaune. Évidemment, c'est pas si on s'en va aux États-Unis. Mais il y a certains endroits que vous devez l'avoir. Donc, vous devez avoir votre carnet qui est mis à jour. Aussi, très important et fondamental, une assurance. Pour partir serein, mieux vaut être assuré. Et ça n'arrive pas seulement aux autres. Hein. Nous pouvons tous être malades en vacances et ça peut arriver soudainement. Or, si vous deviez être hospitalisé à l'étranger, je pense particulièrement aux États-Unis, où c'est pas si loin, sachez que votre carte d'assurance maladie du Québec ne vous sera pas d'une grande utilité. Le régime d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, est tenu de couvrir vos frais médicaux au Québec, mais ne couvrira pas l'ensemble de vos frais à l'étranger. Et j'ai vu des histoires d'horreur chez des gens qui étaient partis en voyage. Ça peut vous coûter 50, 60, 75 000 $ très très rapidement. Hein? Et comme les assurances voyage ne sont pas toutes pareilles, il est recommandé de magasiner et de bien s'informer. Et vérifiez aussi les services qui sont adhérents à votre carte de crédit, qui comprennent parfois une assurance, mais parfois c'est très bref. Hein? Il y a certaines cartes, c'est 3 jours. Si vous dépassez 3 jours, votre assurance n'est pas valide à ce moment-là. Assurance annulation, de l'assurance bagage, des choses semblables, c'est peut-être un peu moins dramatique si vous perdez votre bagage, mais quand même, ça peut être précieux.
Peut-être qu'on peut demander à des amis qui ont déjà fait affaire avec certaines assurances, oui. voir dans notre réseau. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne référence aussi. La médication, si vous suivez un traitement médicamenteux sur ordonnance, pensez à renouveler votre ordonnance auprès de votre médecin avant de partir et ne pas oublier d'apporter les contenants originaux des médicaments.
Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, pour être partie en voyage à quelques reprises, même si j'avais ma prescription, arrivé à la pharmacie, le médecin, ce n'était pas tout à fait les mêmes.
Les produits ne sont pas les mêmes à l'étranger. Quel que soit l'endroit, vous allez en France, ça ne veut pas dire la même chose. Mais avoir le contenant original, c'est surtout pour, je vous dirais, pour les douaniers qui voient qu'est-ce que c'est. Quel produit vous transportez? Est-ce que c'est suspect? Alors, non, mais il faut quand même faire très attention et apporter vos médicaments en quantité suffisante en prévoyant une quantité supplémentaire. Il peut vous y arriver des choses. J'ai été pris en Italie avec le fameux volcan dont je n'ose prononcer le mot, le volcan islandais qui a paralysé l'Europe à ce moment-là. Et j'ai dû être une semaine... Donc, si vous avez des médicaments importants, c'est mieux de prévoir une dose supplémentaire, la posologie et toutes ces choses. Avisez aussi votre émetteur de carte de crédit, parce que les systèmes informatiques des émetteurs de carte de crédit détectent automatiquement les transactions qui sont inhabituelles. Vous faites toujours des transactions à Montréal, par exemple, et tout à coup, ça apparaît en Tunisie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un représentant de l'institution va tenter de vous rejoindre pour s'assurer que la transaction est bien effectuée par vous. S'il ne vous rejoint pas, ce qui peut arriver, c'est qu'il arrête la carte de crédit. Il condamne. Donc, la première place où vous allez aller au restaurant ou quoi que ce soit, vous pouvez être vraiment mal pris. Surtout qu'on fonctionne maintenant presque, dans mon cas, c'est vrai, presque exclusivement avec des cartes de crédit. Vous savez que les chèques de voyage, oubliez ça, hein? Chèques de voyage, la plupart des pays ne les acceptent pas. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est.
C'est comme passé-date, d'une certaine façon.
C'est
comme
vraiment passé-date. C'était très populaire à un certain moment. Donc, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Et enfin, préparez bien votre valise pour éviter des mauvaises surprises. Et prévoyez des vêtements en fonction de la période et des endroits visités. Il est bon de consulter la météo avant de partir, mais vous savez, il y a des endroits, même en pays chaud, où tout à coup la température peut baisser considérablement. Des changements de température importants. Regardez, si on parle à des étrangers qui viennent ici visiter le Québec actuellement et qu'on leur dit que la température à ce temps-ci de l'année, c'est 7, 8 ou 9 degrés, et tout à coup, ils arrivent ici et il fait 24 ou 25 degrés.
Ils peuvent être surpris.
C'est ça. Donc, il faut toujours prévoir en conséquence et la même chose. Pour toutes ces choses-là, consultez des gens qui ont voyagé, des gens que vous connaissez autour de vous.
Il y a même des forums de voyage sur Internet qui peuvent être intéressants.
Exactement. Maintenant, on peut se renseigner. Les températures, on les a immédiatement sur Internet, quel que soit l'endroit, et au jour le jour. Donc, quelques petits conseils avant de partir en voyage. La presse nous confiait ces choses-là dans la presse du 11 octobre.
La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile. Moi j'en appelle à mon étoile qui me fera trouver le nord. Les bateaux reposent encore dans les eaux profondes du port, épuisés par leur long voyage. Moi j'en appelle au vent du large qui me fera quitter le bord. La nuit que déchire l'aurore n'est plus que l'envers du décor de tous mes rêves périssables. J'en appelle au désert de sable qui me fera trouver de l'or. Je m'en irai, l'âme et le corps, guidé par un commun accord de tous mes sens insatiables. J'en appelle à Dieu et à diable qui me feront trouver la mort. La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile.
Alors, Moustaki qui nous parlait de voyage.
Eh bien, Michel, on va partir dans un autre genre de voyage, celui de la mort, cette fois-ci.
Un long voyage.
Un très long voyage, c'est même éternel. Dans la revue Les diplômés de l'Université de Montréal, un article, donc en automne 2014, qui souligne en fait le 100e anniversaire du Laboratoire médico-légal de Montréal, qui a été fondé par Wilfrid de Rome en 1914. Donc, le 26 juin, plus précisément, il a inauguré ce laboratoire de recherche médico-légale à ce qui s'appelait à l'époque la rue Craig, qui est devenue, je crois, c'est Saint-Antoine. C'est un grand jour, donc, pour l'anatomopathologiste et expert en balistique, donc M. de Rome, qui dote ainsi le Québec d'un centre d'analyse scientifique d'avant-garde, le premier en Amérique et le troisième dans le monde après Lyon et Paris, et qui demeure un siècle plus tard un modèle du genre. Aujourd'hui situé rue Parthenay dans l'immeuble qui porte son nom, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec a autopsié notamment le cadavre de Pierre Laporte, exécuté par le FLQ en 1970, les victimes du massacre de l'Ordre du Temple solaire en 1994 et, plus récemment, le corps démembré de Lin Jun en 2012.
Ouais. Pénible.
Oh, pas facile, sûrement. Ces causes célèbres ne sont que la partie visible d'une science en constante évolution. Et donc, c'est le centième anniversaire. C'est la raison pour laquelle, donc, on fait un article dans la revue Les diplômés cet automne. Donc, l'odeur de la mort lève le cœur dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrent devant le corridor menant aux salles d'autopsie au sous-sol de l'immeuble Wilfrid de Rome, rue Parthenay, à Montréal. Savez-vous, Michel, combien de cadavres sont inhumés, pas inhumés, mais autopsiés durant l'année?
C'est difficile. Je dirais peut-être un à deux par semaine, ou peut-être plus.
Et pas mal plus. En fait, c'est un ou deux par jour.
Par jour?
650 à 750 cadavres qui sont autopsiés par des...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, hein? Par des pathologistes judiciaires. De l'autre côté du mur, la morgue renferme jusqu'à une centaine de corps qui vont faire l'objet d'un examen post-mortem commandé par le coroner chargé de rechercher les causes et les circonstances de décès, soit obscurs, violents ou survenus par suite de négligence. Dans les cas de mort d'enfants et de suicide, des autopsies sont aussi pratiquées. Les examens de routine se règlent parfois en une heure et demie, et les plus compliqués, par contre, peuvent s'échelonner sur plusieurs jours. C'est un travail essentiel, car il permet de préciser l'origine et les circonstances des morts suspectes, explique Pascal Miro, qui est directeur du volet médecine légale et toxicologie au laboratoire. Par exemple, le pathologiste découvrira qu'une personne a été tuée avant un incendie si l'on n'observe pas de traces de fumée dans la trachée et que le taux de carboxyhémoglobine est normal dans le sang. Mais les cas sont souvent complexes. Lequel des 50 coups de couteau a causé la mort de cette victime d'un homicide, par exemple? Comment est morte une personne qui ne présente aucun signe de traumatisme, du moins apparent? Selon M. Miro, le pathologiste est en première ligne dans le processus interdisciplinaire qu'on applique dans ce laboratoire. Sur le cadavre, il faut prendre soin de relever les traces de tissus humains ou de textiles provenant de tierces personnes, autant de pièces à conviction pour le procès verbal. Ensuite, enfin, on prélève les organes afin de les examiner de manière macroscopique et ensuite au microscope, et certaines sont même ciselées en fines lamelles. On voit ça parfois dans les émissions policières.
Oui.
Par des techniciens spécialisés. L'autopsie est en soi un acte de profanation, mais qui est encadré par des lois et qui sert une cause scientifique et qui se fait dans le respect de la dépouille. Il y a également de nouvelles technologies qui permettent des autopsies virtuelles maintenant, qui ont l'avantage de présenter les organes sans que les manipulations les altèrent. On peut aussi enquêter sur les causes génétiques de la mort à partir d'échantillons organiques. Mais c'est le pathologiste qui demeure le premier et souvent le seul de l'équipe à avoir, avoir accès à l'intégralité du corps. Si on veut un exemple plus concret, j'ai quelque chose qui nous parlait du lac Mégantic. Voilà ici. Donc, un pas de plus a été franchi dans la direction de la spécialisation à la suite de l'explosion d'un convoi ferroviaire de pétrole brut au lac Mégantic, on s'en souviendra,
oui.
Le 6 juillet 2013. Grâce au laboratoire, 40 des 47 victimes ont été formellement identifiées en 3 semaines au moyen de l'analyse d'ADN, de l'anthropologie judiciaire et d'autres disciplines ou techniques.
Et ça, c'est incroyable, hein? Quand on a vu de quelle façon ça s'est passé,
l'ampleur,
c'est ça? Et ça m'a toujours étonné de voir qu'on a réussi à identifier ces gens-là.
C'est qu'on peut réussir à partir de fins morceaux de... C'est un défi, donc, dans ce cas-ci, au lac Mégantic, sans précédent. Nous avons rencontré les familles des victimes durant les processus d'identification afin de leur présenter l'évolution de nos travaux. Donc, ça a été possible. Donc, ça a été sûrement réconfortant pour les familles de pouvoir avoir accès à cette information. Alors, Pascal Miro, donc, le directeur, souligne que la science judiciaire évolue de façon remarquable et réunit des experts du monde entier dans un réseau où l'information circule de mieux en mieux grâce aux publications scientifiques et à l'occasion de congrès et de conférences internationales. Les chercheurs de Montréal publient dans des revues spécialisées et se distinguent par leur créativité en balistique, toxicologie, biologie moléculaire, odontologie. Il était difficile, celui-là. Donc, les dents. Spécialité dentaire au niveau judiciaire, notamment. Ce travail scientifique est valorisé par la direction. À l'échelle canadienne, nous figurons, et on peut en être fiers, dans le plomb de tête en matière de rendement, déclare Yves Dufour, une autre personne employée au laboratoire, une situation qui réjouirait certainement M. Wilfrid de Rome, qui est le pionnier du laboratoire.
Je pourrais juste ajouter, j'ai eu l'occasion de visiter le laboratoire médico-légal dans le cadre d'un reportage, et je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire, c'est incroyable.
Impressionnant.
Entre autres choses, je vais vous dire une chose, on a un échantillon de peinture de toutes les voitures qui sortent partout. De sorte que si, par exemple, il y a quelqu'un qui a été frappé, on est capable d'identifier quelle voiture. Et ça fait déjà assez longtemps. Et vous savez que l'Institut médico-légal, c'est un pionnier. Le FBI est venu ici.
Exact.
Il n'existait pas à l'époque. Edgar Hoover qui était venu. Alors, on fait vraiment...
On est vraiment des pionniers en la matière.
Tout à fait.
N'est-ce pas? Donc, c'était un article tiré donc de la Revue des diplômés, automne 2014. Un article signé Mathieu Robert Sauvé.
Alors, il y a une revue qui s'appelle Skytrax, et ça vient d'attribuer des notes aux compagnies aériennes internationales. Et voici le top 5 qui a établi. D'abord, Cathay Pacific, qui n'est vraiment pas une surprise. Ensuite de ça, vous avez Qatar, Singapore Airlines, on voit que ça se situe dans ce coin-là, hein, et Emirates, Turkish aussi. Et ça a été établi par la clientèle, par le biais de sondage. Air Canada se trouve au 24e rang, ce qui lui donne néanmoins la première place des compagnies nord-américaines, ce qui est quand même pas mauvais.
Pas bien,
l'Indonésienne Garuda, que je connais bien, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, se classe la première dans la catégorie équipage. Ici, c'est le lunch. Oh, ben là, c'est...
C'est différent.
Mon Dieu, c'est rendu assez pénible dans ce cas-là. Mais c'est Thaï qui vient en tête de piste à ce moment-là. Et notez que la compagnie la plus ponctuelle est Japan Airlines.
Est-ce surprenant?
Non, c'est absurde. Quand on voit la discipline qui existe à ce moment-là, c'est vraiment, mais vraiment assez extraordinaire.
Moi, de mon côté, je vous dirais que la musique aide au développement du langage, qu'elle a un effet sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les jeunes enfants. Membre associé, donc M. Bolduc, Jonathan, membre associé du Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Ce monsieur mène depuis près de 15 ans des recherches sur les retombées de l'apprentissage de la musique relativement à l'appropriation du langage. Donc, il semble bien qu'il y ait un effet très positif. Ces études confirment l'importance des activités musicales et de l'enseignement de la musique à l'école.